nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Prions. Ô Dieu, qui avez donné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Le même Jésus qui est notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pie X,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous sommes dans le traité sur les passions, c'est-à-dire prima secundae, première partie de la deuxième partie. Question. Voilà. C'est un traité qui couvre les questions 20. Attendez, juste pas de bêtises. C'est à 22 à 48. 22 à 48. Donc les 11 passions de l'âme. Encore une fois, je vais assez vite parce que le but du cours n'est pas de faire un cours complet de philosophie et de théologie, mais plutôt de faire ressortir de la somme de Saint Thomas les plus belles parties pour faire aimer Saint Thomas. Après, c'est à vous de, je dirais, peut-être petit à petit commencer à étudier Saint Thomas par vous-même pour pouvoir aller plus profondément que ce que je le fais moi-même. Je vous rappelle, donc, on a déjà vu qu'il y a 11 passions. Il y en a 6 qui sont dans le concupiscible et 6 qui sont dans l'irascible. Il y a 6 qui ont pour but de nous faire considérer les mouvements, la définition de la passion, c'est le mouvement de l'appétit sensible se portant sur le bien ou sur le mal présenté par l'imagination. Donc il y a six de ces passions, donc l'amour, la haine, le désir, l'aversion, la joie, la tristesse, qui ont pour but le bien qui est désirable, le bien qui attire en quelque sorte. Et au contraire, il y en a 5, à savoir l'espoir, le désespoir, la crainte, l'audace et la colère, qui ont pour but le mal qui va s'opposer à ce bien. Dès qu'on veut, c'est important dans la vie spirituelle, dès qu'on essaye de faire du bien, dès qu'on essaye de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, dès qu'on essaye de suivre la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, tout de suite le démon n'est pas content, et va attaquer pour nous empêcher d'obtenir ce bien, chercher ce bien, voire même pour nous décourager complètement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir à la fois avoir des passions qui vont nous faire aller vers le bien, mais en même temps des passions qui vont nous faire lutter contre le mal. C'est pour ça que le bon Dieu a mis dans notre âme à la fois un pouvoir qui nous attire vers les choses bonnes, mais à la fois aussi un pouvoir qui nous permet de lutter contre les obstacles qui se rencontrent dès qu'on veut se mettre sur le chemin qui mène vers le bon Dieu. On n'a pas oublié ça, c'est que dès qu'on se met sur le chemin qui mène vers le bon Dieu, tout de suite, il y a les obstacles. Le premier obstacle, c'est les concupiscences, 3 concupiscences de la chair, des yeux et de l'orgueil, mais il y a aussi le démon par lui-même, il y a la faiblesse de l'homme, il y a le monde en lui-même. C'est pas pour rien que le bon Dieu parle de ce monde qui est ennemi de Dieu. Et donc, tout ça va être réglé, si vous voulez, par la raison. C'est la raison qui est la reine des passions. La raison, c'est quoi? La raison, c'est l'intelligence. Donc la raison va utiliser les passions pour nous faire suivre une double loi, à savoir la loi naturelle, celle qui est réglée justement par l'intelligence, et puis au-dessus de ça, la loi divine. Donc le bon Dieu nous demande d'utiliser les passions qui sont dans notre âme pour que nous puissions suivre la loi divine plus facilement. Alors, c'est une chose, je crois, qui est extrêmement importante, j'en ai déjà parlé peut-être pas assez la dernière fois, c'est résumé dans un verset du psaume, je ne sais plus lequel c'est, j'ai oublié de vérifier le numéro, qui dit « Quid est justice dominum, audite malum », c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendent aimer Dieu sans haïr le mal. Et qu'on ne peut pas utiliser les passions du concupiscible sans aussi utiliser les passions du sensible. Et ça, c'est à mon avis un point très important à expliquer aux jeunes, surtout parce que dans l'Église de Vatican II, justement, ils considèrent que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein, donc, ils refusent de dire qu'il faut de la haine contre le mal. La haine du péché est complètement disparue dans l'Église de Vatican II. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si j'aime notre Seigneur Jésus-Christ, je suis obligé d'haïr le mal. Et l'idée qui me fait dire qui me fait penser qu'il est possible à la fois d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ et à la fois de ne pas haïr le mal, c'est ça le libéralisme catholique. On essaie de maintenir dans une âme catholique les deux choses, c'est-à-dire l'amour de Dieu et en même temps l'amour du monde. Et bien, c'est absolument pas possible. Et je crois que c'est la chose certainement la plus difficile à comprendre, parce que là, ce dont les gens ont le plus besoin actuellement, c'est justement de comprendre que c'est facile, je veux dire, comment expliquer ça? Il est facile de parler de l'amour du bon Dieu, il est facile de prétendre avoir l'amour du bon Dieu en soi. Mais à votre absence de haine de l'erreur, on verra que vous n'êtes pas vraiment l'ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que c'est absolument fondamental de comprendre cela. Et toute la différence énorme entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II, je crois qu'elle est là. C'est-à-dire un refus de considérer le démon, le monde, comme un ennemi. Le démon, le monde deviennent des gens qu'on côtoie tous les jours et donc qu'il faut accepter comme tel. Donc on n'a plus le droit dans l'Église de Vatican II, c'est comme ça, on n'a plus le droit de considérer que le péché est quelque chose de mal. Et pourquoi? Parce qu'on est tellement déformé par les idées de liberté de conscience qu'on en arrive à n'importe quoi. Alors, voyons un petit peu, donc je suis à la page 40 là. Donc, on va attaquer un petit peu un autre article de la Somme, toujours dans ce traité sur les passions. Saint Thomas se pose la question de savoir si tout plaisir est mauvais. Il y a des gens qui ont dit des choses comme ça. Il y a des gens, si vous voulez, qui ont recherché le plaisir pour le plaisir, ce qu'on appelle les épicuriens. Mais il y a aussi des gens qui considéraient que tout plaisir était mauvais, parce que un plaisir faisait que ça provoquait une pulsion dans l'organisme qui fait qu'on ne pouvait plus vraiment suivre notre Seigneur complètement parce qu'on avait des plaisirs. Bon. Et c'est là où il faut garder un équilibre. Il y a on va expliquer justement, certainement va très bien l'expliquer dans ces deux articles-là. Article, question 34, article 1, et dans la page 41, question 40, article 6. Donc, saint Thomas va expliquer que, il y a des phrases magnifiques, voilà ce qu'il dit, dans la contemplation de la vérité, on trouve le plus grand plaisir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une âme et un corps. Donc, il y a des plaisirs qui vont s'adresser plus à l'âme et des plaisirs qui vont s'adresser plus au corps. Donc, il est parfaitement normal que le corps et l'âme travaillent ensemble, donc vont réagir ensemble à un plaisir. Bon. À condition qu'il y ait une ordonnance entre les deux choses. L'âme doit être maîtresse du corps. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout un péché d'avoir un plaisir physique, je dirais, dans le corps, à condition que la raison soit suivie, d'une part, et que la loi morale soit également suivie. Alors voilà ce que c'est un petit peu la question qui va se poser d'après saint Thomas. Donc, tout va dépendre de la fin. C'est la fin, F-I-N, qui va permettre de déterminer si le plaisir en question est bon ou mauvais. Si vous avez une fin qui est mauvaise, à partir du moment où la fin est mauvaise, l'arbre lui-même est mauvais, et sur un arbre mauvais, on ne peut pas trouver de fruit bon. Au contraire, si la fin est bonne, à ce moment-là, ça veut dire que l'arbre est bon, et on va pouvoir trouver des fruits bons sur l'arbre qui est bon. En faisant attention toutefois à une chose, c'est que la fin ne justifie pas les moyens, contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui. Voilà ce que dit saint Thomas. Il faut dire, le titre c'est page 41, donc sous le titre, tout plaisir est-il mauvais? Question 34, article 1, page 40 du polycopier. Il faut donc dire que certains plaisirs sont bons et d'autres mauvais. Le bien et le mal en morale, se détermine par convenance ou désaccord avec la raison. D'accord ? La raison d'une part et la loi divine. C'est évident. Pardon. Donc il ne peut y avoir d'opposition entre la raison et la loi divine. C'est impossible. Bon. Il y a des choses dans la loi divine qui dépassent la raison. Par exemple, la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption, sont des choses qui dépassent la raison. Bon. Cependant, il n'y a pas d'opposition entre une chose qui est raisonnable et une chose qui est divine. Simplement, la lumière de la raison est largement inférieure à la lumière divine. Si vous voulez, la lumière de la raison va s'imbriquer dans la lumière divine, Dieu par cela, évidemment, a un pouvoir qui est largement supérieur à celui de la raison. Donc va donner à des hommes qui n'ont que la lumière de la raison, une lumière bien largement supérieure qu'à la lumière divine. C'est pour cela que la lumière qui éclaire l'âme est bien plus importante que la lumière qui éclaire le corps. Et c'est le drame, si vous voulez, actuellement, c'est que on vit dans un espèce de monde dans lequel le corps a pris énormément d'importance, beaucoup trop d'importance, ce qui fait qu'on a l'impression que les seuls plaisirs après lesquels se ruent, si vous voulez, les gens du monde moderne, sont les plaisirs corporels, les plaisirs physiques. Ils oublient les plaisirs surnaturels. Donc voilà ce que dit saint Thomas. En morale, dit-il, il y a un plaisir qui est bon du fait que l'appétit supérieur ou inférieur se repose en ce qui convient à la raison, et un plaisir mauvais du fait qu'il est en désaccord avec la raison ou avec la loi de Dieu. Donc si quelque chose s'oppose à la loi de la raison ou à la loi divine, cette chose est ipso facto quelque chose de mal. Même si une personne, parce qu'elle est viciée par le péché, va considérer que quelque chose qui va contre la loi divine peut être quelque chose de bon. Donc, je donne un exemple, tout ça, je comprends pas un exemple. Prenez le cas de l'avortement. Vous voyez, c'est ça qu'il faudrait bien comprendre. Je crois que c'est très important à expliquer parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ça, même dans la tradition. C'est qu'à partir du moment où quelque chose va contre la loi divine, c'est ipso facto mauvais. Ça ne se discute donc même pas. Bon, si par exemple, je dis, on parle de l'avortement. L'avortement s'oppose au commandement qui dit « tu ne tueras pas ». Donc l'avortement est quelque chose de mauvais. Point final. Bon. Quand on met, par exemple, quand on estime que un pays peut, dans sa politique intérieure, accepter ou non l'avortement, c'est un peu mettre aux voies la loi divine. Et c'est déjà quelque chose qui est en soi pécamineux. Donc je maintiens qu'à partir du moment où on rentre dans un système qui pose la question de savoir si on peut accepter dans le pays, par exemple, l'avortement ou le refuser, le simple fait qu'on accepte de poser la question et donc d'arriver à une conclusion qui dira que l'avortement est quelque chose de bon, on n'a pas déjà pas le droit de participer à ces choses-là. Et ça me semble absolument fondamental à expliquer. Et c'est, je crois, c'est évident, il y a des conséquences très, très graves, hein, ce que je viens de vous dire, par exemple, sur les histoires électorales et tout ça. Est-ce qu'on a le droit de participer à des choses qui vont contre la raison?
Non.
On n'a pas le droit, voyez, c'est ça. Alors, un plaisir mauvais, c'est quoi? Un plaisir mauvais, c'est un faux bien. Un plaisir mauvais, c'est quelque chose qui s'oppose ou à la raison ou à la loi naturelle. Ou à la naturelle ou à la loi éternelle. D'accord? Alors, les plaisirs qui ont pour objet l'acte de la raison n'entraînent pas la raison, ne détruisent la prudence comme les plaisirs du corps. Bon, saint Thomas va donc expliquer que plus un plaisir est physique, plus il va limiter le pouvoir de la raison. Bon, alors, dans certains cas, il est évident que je ne vais pas dire, bien sûr, que le plaisir physique est mauvais en tant que tel, bien sûr que non. Parce qu'il y a des plaisirs physiques qui sont selon la raison. Il y a des plaisirs, par exemple, que le bon Dieu a voulu donner à, je sais pas, à la nourriture, par exemple. Bon, manger en tant que tel, c'est pas un péché. Bon, pour nous aider à manger, nous maintenir en vie, on a besoin de manger. Donc le bon Dieu a voulu mettre dans la nourriture un plaisir des sens qu'on a parfaitement le droit d'accepter à condition que ce soit encore réglé par la raison. Donc manger pour vivre, tout à fait acceptable. Prendre de la bonne nourriture pour pouvoir vivre, c'est aussi parfaitement acceptable. Où va intervenir le péché? Le péché va intervenir quand je mange pour le plaisir de manger, en déconnectant complètement le fait de manger de la faim pour laquelle le bon Dieu a mis le plaisir de la nourriture. Mon deuxième exemple, c'est évidemment dans les plaisirs des sens, plaisir physique dans le mariage. Donc, le bon Dieu, pareil, a voulu que certains plaisirs physiques dans le mariage soient parfaitement raisonnables pour des gens qui sont mariés. Œuvre de chair ne désira qu'en mariage seulement. Donc, à ce moment-là, la raison et la loi divine interviennent pour dire ce plaisir est parfaitement acceptable pour quelqu'un qui est marié, avec évidemment avec son épouse ou son époux légitime, parce que à ce moment-là, ce plaisir ne s'oppose pas à la loi de la raison, ni même à la loi divine. Et donc il faut faire attention, parce qu'il y a, entre autres, sur Internet actuellement, il y a une espèce d'ostrogo que je ne connais pas d'ailleurs, et qui semble passer une bonne partie de ses journées à essayer de faire des vidéos contre les ordres de l'abbé Lafitte. Alors, ça vaut son pesant cacahuète. Il y en a une, entre autres, où il s'attaque à une lettre que j'ai écrite il y a très longtemps, sur une conférence que j'ai donnée sur Maria Valtorta, Maria d'Agreda et Catherine Emmerich. Bon. Et dans ces réponses à mes soi-disant erreurs sur le sujet, il va jusqu'à dire que le bon Dieu n'a pas voulu le plaisir physique dans l'acte conjugal. N'a pas voulu l'acte conjugal, et que c'est une conséquence du péché originel. Et que donc, s'il n'y avait pas eu le péché originel, il n'y aurait pas eu cet acte. Et ça, c'est l'erreur des cathares. Les albigeois, on appelle ça les albigeois en français. Les albigeois, les cathares, les manichéens, c'est tout ça. C'est du manichéisme pur et simple. Alors, il faut faire donc attention à ça, parce qu'on n'a pas le droit, si vous voulez, rappelez-vous le proverbe « qui veut faire l'ange fait la bête ». Je pense que même dans les préparations de mariage, il faut faire attention aux gens, attention à ce qu'on dit, et pas faire croire ou laisser croire que l'acceptation d'un certain plaisir physique dans le mariage serait quelque chose de pécamineux. Absolument pas, puisque c'est voulu par Dieu dans le cadre du mariage. Et donc, de la même façon, si vous voulez, que l'usage du corps, quand c'est contrôlé par la raison et par la loi divine, est parfaitement OK. De la même façon, le bon Dieu, si vous voulez, s'il voit quelqu'un utiliser son corps contre la raison, contre la loi divine, évidemment, ça devient quelque chose de pécamineux. Hein. Saint Thomas a dit avec raison que, à partir du moment où des gens ont le droit d'avoir certains plaisirs sensibles très forts, comme ceux qui sont permis par les gens mariés entre eux, et bien même si la raison est interrompue dans ce genre de plaisir, parce que c'est des plaisirs très forts, et bien ils sont parfaitement acceptables, parce que justement ils ne vont ni contre la raison ni contre la loi divine. D'accord. Alors, deuxième paragraphe, donc, sous le titre « Tout plaisir est-il permis ?»« L'homme tempérant ne fuit pas tous les plaisirs, mais ceux qui sont excessifs et ne conviennent pas à la raison. » Donc, le plaisir est donc bon et vertueux qui trouve sa joie dans les activités des vertus, et mauvais celui qui se complaît dans les œuvres mauvaises. Bon. Alors, ces choses-là étaient évidentes auparavant, malheureusement actuellement à cause du fait qu'on est passé à la révolution contre nature. À cause de la révolution contre-naturelle, des gens vont prendre des choses qui sont contre-nature comme des choses qui sont acceptables parce que l'homme l'a décidé ainsi. Vous voyez ? Donc, alors qu'au contraire, un catholique doit dire tout acte qui est contre la nature, contre-naturel, toute révolution contre-naturelle, toute perversion contre-nature, est ipso facto immoral. Pourquoi ? Parce qu'il s'oppose à la raison et à la loi divine. Et il faut faire attention, parce que on finit par avoir maintenant parfois des gens qui, à force de vivre dans une atmosphère complètement frelatée comme celle dans laquelle on est obligé de vivre, finissent par raconter des bêtises énormes sur ce sujet-là. D'accord. Donc cette phrase est importante. Celui-là est bon, donc cet homme est bon et vertueux qui trouve sa joie dans les activités des vertus, et mauvais celui qui se complie dans les œuvres mauvaises. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir un plaisir dans quelque chose qui est contre la nature ou contre la loi divine, c'est ipso facto quelque chose de pervers par lui-même. Au contraire, celui qui trouve son plaisir dans des choses qui vont selon la raison, selon la loi divine, c'est quelque chose de normal. Et c'est là, faire attention, c'est que la révolution, si je voulais, qui a travaillé aujourd'hui au niveau de la pour détruire l'ordre même de la nature, ce qui fait que des choses qui vont contre la nature, contre la loi divine, sont considérées comme parfaitement normales à partir du moment où il y a la liberté de conscience, que chacun fait ce qu'il veut. Okay? Et on oublie que bah, au-dessus de la loi humaine, il y a une loi divine et que le bon Dieu, c'est lui qui commande. Vous voyez. Alors en bas de la page 40, il y a des passages splendides là dans le saint Thomas d'Aquin. Dans la contemplation de la vérité, dit-il, on trouve le plus grand plaisir. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important à expliquer. Tout plaisir atténue la douleur. C'est pourquoi la contemplation de la vérité adoucit la tristesse ou la douleur, et d'autant plus que l'on aime davantage la sagesse. Aussi, la contemplation des choses de Dieu et de la béatitude à venir est-elle cause de joie dans les tribulations. Bon. Et pourquoi les gens sont-ils malheureux comme des pierres aujourd'hui? Justement parce qu'ils ont perdu ce sens de la contemplation. Oui. Donc la grande joie du catholique, c'est quoi? La grande joie du catholique, le grand plaisir du catholique, c'est la contemplation de la vérité. Et c'est tout le mot d'ordre que Saint Dominique avait donné aux Dominicains, contemplare, contemplatar, l'istradere. Il y a contempler, puis donner aux autres le fruit de sa contemplation. Et donc, alors pour nous prêtres, c'est quelque chose de très important. Monseigneur Lefebvre nous disait malheur aux prêtres qui vont chercher leur consolation ailleurs que devant le Saint-Sacrement. Mais ce qu'il faut trouver, c'est comprendre, c'est que c'est à cause du fait que notre âme a une soif de la vérité, une soif de Dieu, parce qu'elle a été créée par lui, et donc tout à fait normal que cette âme trouve un plus grand plaisir dans la contemplation de la vérité que dans les choses sensibles. Bon. Le problème, c'est que si on ne fait pas attention, qu'on perd ce sens du vrai, ce sens de la vérité, on perd à ce moment-là l'idée, la compréhension que c'est dans les choses spirituelles qu'une âme va trouver son plus grand plaisir. Et donc l'âme va se rattraper en allant, si vous voulez, s'abaisser pour aller chercher des plaisirs complètement contre nature. Okay? Donc, d'où l'importance fondamentale pour aider les gens à comprendre ces choses-là, l'importance fondamentale pour eux vivre en état de grâce. Parce que, est-ce qu'il est possible de contempler la vérité quand tu as un tel péché mortel? La réponse est pratiquement non. Il est très difficile, voire même impossible, de contempler la vérité quand on est un péché mortel. Parce que, quand on contemple la vérité, c'est quoi? La contemplation de la vérité, c'est un acte d'amour à l'égard du bon Dieu. Comment peut-on avoir un acte d'amour à l'égard du bon Dieu si on vit dans un péché mortel? C'est pas possible. Hein? D'où la nécessité de vivre en état de grâce pour pouvoir justement contempler la vérité. Et la contemplation de la vérité, c'est quoi? La contemplation de la vérité, c'est précisément la vie intérieure. Et qu'est-ce que fait la révolution? Je cite souvent cette citation, je sais même que j'ai oublié ce qu'elle est, mais je la cite souvent dans les sermons, dans les conférences, qu'elle aide beaucoup les gens à comprendre que je crois bien que c'est Bernanos, je ne suis pas sûr, qui disait qu'on ne peut rien comprendre à la révolution tant qu'on n'a pas réalisé que la contemplation, la révolution, c'est d'abord la haine formelle de toute forme de vie intérieure. La destruction de toute forme de vie intérieure. Et comment on fait pour détruire la vie intérieure d'un individu? Donc il y a plusieurs moyens de détruire la vie intérieure d'un individu. Le premier moyen, c'est de mettre le péché dans l'âme de cet individu à tel degré que l'âme ne puisse plus, c'est comme si on avait un oiseau qui est englué dans la colle, dans du goudron qui ne peut plus voler. Bon. Et un autre moyen, si vous voulez, c'est de remplir l'âme de choses matérielles pour qu'il n'y ait plus de place pour le spirituel. Comme si vous voulez, un feu qui s'éteint parce qu'on met trop de bois, littéralement. Bon, et là, il faut arriver à comprendre, à faire comprendre aux gens que la seule vérité, la seule bonheur véritable pour un homme, c'est la contemplation de la vérité. Contemplation de Dieu, de Dieu immortel. Alors, évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à expliquer ces choses-là, même à les comprendre, parce qu'on recherche toujours des plaisirs sensibles. Bon, la contemplation de la vérité est une contemplation, la partie supérieure de notre intelligence, qui va faire fonctionner la partie supérieure de notre intelligence. Donc il n'y a pas en soi de contemplation sensible de la contemplation de la vérité, même si Dieu de temps en temps donne un peu de sucre. Bon. En fait, quand plus une âme s'approche du bon Dieu, plus elle va se couper des consolations sensibles. Et on voit très bien que dans la vie spirituelle, les consolations sensibles sont des obstacles à la contemplation de la vérité. À tel point que lorsqu'on s'approche de la vérité, plus on s'approche de la vérité, plus on se coupe des constellations sensibles. Mais pas seulement les constellations sensibles, qui est normalement le passage de la voie, ce qu'on appelle la voie purgative ou la voie illuminative, mais aussi des consolations intellectuelles, qui est le passage de la voie illuminative à la voie initiative. Et qu'il y a trois parties dans la vie spirituelle d'un homme. Donc, une partie purgative, la partie purification, qui correspond à la première partie des exercices saint-Ignace, c'est la méditation sur le péché, conséquence du péché. Ensuite, c'est la partie illuminative, mais entre les deux, pour pouvoir sauter la partie purgative à la partie illuminative, sauter donc de la contemplation des conséquences du péché, déjà à l'amour du bon Dieu en méditant sa vie, il faut déjà être passé par ce que saint Jean de la Croix appelle la nuit des sens. La nuit des sens, c'est quoi? C'est justement Dieu qui coupe en quelque sorte des consolations sensibles pour que l'âme puisse se libérer, passer, voler vers le bon Dieu plus facilement. Vous voyez? Et à ce moment-là, l'âme va pouvoir avoir une contemplation de Dieu qui va être beaucoup plus intellectuelle, puisque précisément, le poids ne sera plus là pour empêcher l'âme de s'élever vers le bon Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la deuxième étape qui correspond du passage au passage de la vie illuminative à la vie unitive, le bon Dieu va encore purifier son âme, l'âme en question une seconde fois. Cette fois-ci, il va enlever les consolations intellectuelles. Première étape, enlever les consolations sensibles. Deuxième étape, enlever les contemplations intellectuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on s'approche du bon Dieu, plus le bon Dieu nous enlève les consolations sensibles et même intellectuelles. Et à ce moment-là, on peut être complètement libéré de toutes ces choses-là, et donc, c'est vers le bon Dieu, c'est ce qu'on appelle le mariage spirituel. Mais il n'y a pratiquement que les grands saints qui arrivent. Hein. Parce que nous, justement, c'est ça le drame, c'est qu'on veut bien prier à condition d'avoir une contemplation sensible qui suit. On veut bien contempler notre Seigneur Jésus-Christ à condition d'avoir un plaisir sensible. Ben non. Il faut comprendre que plus Dieu aime une âme, plus une âme aime Dieu, plus cette âme va être obligée de se couper des consolations sensibles. Alors, où est-ce que j'en suis là? Alors, saint Thomas rajoute, donc en bas de la page 40, la tristesse du péché est utile pour amener l'homme à fuir le péché. Quant à la tristesse ou douleur qui porte sur un mal apparent, lequel est un vrai bien, elle ne peut être le souverain mal, car elle serait pire et complètement éloignée du vrai bien. Par suite, le mal de l'âme est un mal plus grand que le mal du corps. L'espoir présuppose le désir, comme toutes les passions de l'irascible présupposent celle du concupiscible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les biens physiques, les biens corporels, ne sont que des biens, je dirais, apparents. Donc le bon Dieu, par sa grâce, va nous aider à dépasser ces choses-là pour passer au niveau intellectuel, puis au niveau spirituel. Et au niveau physique, puis au niveau intellectuel, puis au niveau spirituel. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est qu'évidemment, plus le plaisir physique est dans la recherche, si vous voulez, de l'individu, plus il est difficile pour lui de s'élever le bon Dieu. Vous voyez? Donc, quand on commence à vouloir suivre notre Seigneur Jésus-Christ, la première chose à faire, c'est commencer par se couper, évidemment, des plaisirs sensibles du monde. La première chose qu'on doit faire pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est se couper, justement, des choses que le monde aime et des choses que le monde désire et recherche tout le temps. Bon. Alors, évidemment, c'est un petit peu difficile parce que on a une espèce de désir naturel d'avoir des plaisirs. Eh bien, mon Dieu, justement, nous explique, il nous fait comprendre que il demande de passer au-dessus de tout ça pour se rapprocher de lui. Hein? Et le monde moderne a beaucoup de mal à comprendre ces choses-là parce qu'il considère que toute personne qui se coupe des trois concupiscences, donc les yeux, la chair et l'orgueil, c'est une personne qui se retrouve dans l'esclavage. Et en fait, c'est l'inverse. On voit très bien dans le monde moderne que ce sont précisément les personnes qui sont esclaves des trois concupiscences, la chair, l'orgueil et le monde, qui, elles, sont en esclavage. Donc les personnes qui sont les plus libres dans le monde, quelles sont ces personnes? Les personnes qui sont les plus libres dans le monde moderne, dans le monde tout simplement, ce sont les personnes qui sont sous les trois vœux. Parce que par les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, elles ont coupé avec les trois concupiscences, et donc elles sont à ce moment-là beaucoup plus libres d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le monde moderne va considérer qu'une personne qui n'a plus rien à voir avec les trois concupiscences de la chair, de l'orgueil et des sens, de la chair, l'orgueil et des yeux, une personne qui va devenir malheureuse, et c'est en fait exactement l'inverse. C'est l'inverse, pourquoi? Parce qu'on s'est coupé avec les choses matérielles, du coup on a toute l'opportunité de se monter vers les choses vers les choses spirituelles. Passons à la page 41. Si vous voulez, vous l'avez, je crois. Page 41, il y a un article qui est intéressant de saint Thomas, parce que je l'ai mis ici, sur les jeunes. Les jeunes. Alors d'abord, le titre, c'est spécial, c'est tout à fait saint Thomas. Les jeunes et les gens ivres gorgent-ils d'espoir? Il met un peu les mêmes, les deux, au même niveau. C'est un peu humiliant, mais c'est comme ça. Bon, en gros, ce qu'il veut dire, c'est que les jeunes qui n'ont pas le contact avec le réel sont un peu comme des gens ivres, parce qu'ils sont complètement déconnectés, justement, de la réalité des choses. Alors, il commence comme ça, les gens ivres ont bon espoir et les jeunes ont beaucoup d'espoir. Bon, donc, justement, le rôle des parents, le rôle des professeurs, le rôle des supérieurs, le rôle de tout simplement ceux qui s'occupent des âmes, c'est précisément à propos des jeunes de laisser de l'espoir à ces jeunes, parce qu'un jeune qui n'a plus d'espoir, il n'a plus rien, mais en même temps, de contrôler cet espoir pour leur rappeler qu'ils doivent, s'ils veulent regarder vers le ciel, très bien, garder les deux pieds ici-bas fixés sur le sol pour bien ne pas faire de bêtises, justement. Et saint Thomas va expliquer pourquoi la jeunesse est cause d'espoir. Et pour trois raisons, dit-il, qui peuvent se rattacher aux trois conditions du bien objet de cette passion. Qu'il est futur, difficile et possible. Bon. Alors, est-ce que j'ai vu une autre phrase là, qui était... Voilà, c'est une phrase qu'il va reciter après, on en reviendra plus tard. Il cite ailleurs une phrase de Cicéron que j'aime bien. Donc, quand Cicéron parle de la prudence, il donne les trois parties de la prudence. Et comme un jeune, par définition, n'a pas encore beaucoup d'expérience, donc qu'est-ce qui va manquer aux jeunes? C'est la prudence. C'est pas que la prudence, c'est la vertu du chef. Donc, celui qui est jeune n'est pas encore chef, puisqu'il est encore dans une période où il apprend. Donc, il va beaucoup lui manquer la prudence. Cicéron, qui est un païen, dit qu'il y a trois parties dans la prudence: mémoire du passé, intelligence du présent, prévoyance de l'avenir. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est prudent, selon Cicéron, c'est donc quelqu'un qui va se rappeler du passé pour comprendre le présent et à partir du passé, préparer l'avenir. C'est là où on voit la bêtise des politiques modernes qui, non seulement n'ont pas de mémoire du passé, mais se font tout pour se couper du passé faisant table rase. Vous voyez ? À ce moment-là, ils n'ont plus le passé, donc ils sont incapables, parce qu'ils ont coupé du passé, ils sont incapables de comprendre le présent et donc incapables de prévoir l'avenir. Et c'est ce qu'on voit dans les gouvernements qui nous dirigent maintenant depuis des années et des années, où il n'y a aucune prévoyance parce qu'il manque la vertu de prudence. Alors, voyons un petit peu dans page 41 ce texte de Saint Thomas d'Aquin. En effet, dit-il, les jeunes ont beaucoup d'avenir et peu de passé. Bon. Donc ils regardent vers l'avenir, ce qui est normal, mais si on regarde vers l'avenir sans se préoccuper du passé, comme l'avenir, c'est en fait, dans la pratique, c'est le passé qui se continue, qui éventuellement s'améliore, mais qui se continue, pour pouvoir avoir une vision d'avenir correcte, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est garder le passé, précisément. Et donc, qu'est-ce que nous pousse à faire? À nous couper du passé pour justement avoir un avenir complètement déconnecté du réel. Donc, parce que la mémoire porte sur le passé, tandis que l'espoir garde l'avenir, ils ont peu de mémoire, mais beaucoup d'espoir. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, mais peu de mémoire, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui est capable de faire énormément de choses, mais qui n'a pas de règles, qui n'a pas d'épine dorsale, qui n'a pas de colonne vertébrale pour le guider. Encore une fois, c'est la même idée, la même image du cheval fou, du cheval très fougueux. Le fougueux, un étalon avec une force extraordinaire, mais qui n'est pas réglé justement par la prudence, parce qu'on a oublié de lui mettre un mort entre les dents. Et donc ça ne sert strictement à rien, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes sont pleins de zèle, mais s'ils ne commencent pas par regarder vers le passé, ils vont droit dans le mur. Donc, il y a tout un cours à faire là-dessus, sûrement à donner justement sur ces trois points de saint Thomas d'Aquin. Première caractéristique des jeunes, donc, ils ont beaucoup d'avenir, peu de passé. Donc, ils déconnectent l'avenir du passé. Et donc, quelqu'un qui a la prudence, au contraire, donc c'est quelqu'un qui va garder la mémoire pour le passé, l'intelligence pour le présent, la prévoyance pour l'avenir. Oui. Donc, c'est le rôle des parents. Donc, des parents qui laissent leurs enfants ce prétexte de liberté, fausse liberté à donner aux enfants, qui laissent leurs enfants se déconnecter du réel pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent, c'est des assassins. Le rôle des parents, c'est justement d'obliger les enfants à garder vers l'avenir, parce qu'ils doivent avoir l'espoir. S'il n'y a pas d'espoir, c'est un jeune de 20 ans, je ne sais pas qui en assurera l'espoir, mais les obliger en même temps à considérer le passé pour pouvoir préparer l'avenir sur des bases saines. D'accord ? Deuxième chose, deuxième point, c'est la dilatation du cœur, dit saint Thomas, qui fait tendre aux choses difficiles. C'est pourquoi les jeunes sont entreprenants et pleins d'espoir. Bon. La dilatation du cœur, c'est quoi ça ? C'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Il y a un cœur qui s'est dévoilé. Le jeune, c'est l'homme des grands désirs, c'est normal. Mais la dilatation du cœur, si vous voulez, s'il n'y a pas une connexion entre le cœur et le cerveau, et le cerveau et Dieu, la dilatation du cœur, c'est à tout faire exploser. C'est comme un ballon qu'on gonfle trop, si vous voulez, qui va finir par exploser. D'accord ? L'exemple typique, de mon avis, de ce deuxième point, et pourquoi les jeunes sont entreprenants et pleins d'espoir, c'est des jeunes, un jeune de 16, 17, 18 ans, 20 ans, même peut-être plus tard, jusqu'à 25 ans, bon, c'est certains d'entre eux, qui par exemple sont amoureux. Moi j'ai remarqué ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Donc il n'y a plus que le cœur qui travaille. Alors, ce n'est pas un péché d'être amoureux, rassurez-vous, ce n'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais il faut, pour qu'un amour soit voulu par le bon Dieu, permis par le bon Dieu, il faut absolument que cette dilatation du cœur, correspond à l'amour, soit rattachée, soit contrôlée par la prudence et par l'intelligence. Et donc, la définition qu'on peut donner d'un adolescent ou d'un jeune adulte, on peut donner cette définition qui est peut-être un peu forte, mais je maintiens qu'elle est quand même très proche de la réalité. C'est quelqu'un qui utilise son cœur en utilisant sa cervelle. Bon. Ou on peut changer la définition en disant c'est quelqu'un qui a un énorme cœur et un cerveau qui n'est pas encore complètement développé. Ou encore quelqu'un qui a coupé le neurone qui doit réunir le cœur de l'intelligence, de la cervelle, vous voyez. Donc, qu'un jeune ait de l'espoir pour les choses difficiles, c'est très bon. Et cette dilatation du cœur dont parle saint Thomas d'Aquin, c'est très bon. Mais il faut impérativement, justement, que le cerveau embraye, justement, pour bloquer la dilatation du cœur au niveau purement sensible. Le problème, c'est que une fois que les jeunes sont amoureux, à ce moment-là, c'est le cœur qui prend, si vous voulez, qui mène tout. L'intelligence suit tant bien que mal derrière, et puis le bon Dieu encore tout à fait à la fin. Alors tout est inversé. C'est pour ça qu'il faut, si bien que c'est pas facile, hein, parce que le péché originel il est là. Mais je dirais, il est très important que les parents aident justement les jeunes à comprendre que le choix d'un amour pour une vie de mariage, qui est tout à fait légitime pour des gens qui n'ont pas de vocation, le choix d'un amour pour une vie de mariage, dans le mariage chrétien, voulu par le bon Dieu, n'est possible que pour ceux qui, justement, arrivent à soumettre leur cœur à l'intelligence. Est-ce que c'est le cœur qui prend le pouvoir sur l'intelligence, ça donne des catastrophes. Et le drame, c'est qu'une fois que les jeunes sont amoureux, c'est trop tard, quoi. Pratiquement, on ne peut rien faire. Et moi, je le vois tout le temps quand je prépare les jeunes au mariage. Alors, ils viennent me voir, deux petits tourtereaux, ils sont venus tout plein, ils viennent me voir. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent ensemble me parler, ils se regardent l'un l'autre. Et puis, moi, j'ai l'air d'un andouille parce que je suis en face, j'essaie de vous expliquer certaines choses. Mais manifestement, ça leur complètement dessus. Et puis, ils se regardent comme ça, absent des yeux. Et puis, parfois, je me dis, qu'est-ce que je viens de dire ? Je l'aime. Non, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que je viens de dire ? Elle est très belle. Oui, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que je viens de dire ? Ils sont capables de dire de quoi je parle. Pourquoi ? Parce que tout est déjà... Le cœur a pris complètement le relais de l'intelligence. Vous voyez ? Et donc le drame est là, c'est malheur à un jeune qui va, par exemple, qui va choisir son épouse simplement avec, avec l'usage de son cœur, c'est catastrophe. Et donc, non, l'idéal, c'est pas facile, hein. L'idéal, ça serait justement que le jeune qui commence à se sentir qui risque de tomber amoureux de quelqu'un, il y a une attraction qui est légitime, qui est tout à fait normale, pour une bonne fille par exemple. Eh bien, il se rend compte que le cœur est en train d'essayer de prendre pied dans l'histoire, parce que c'est beaucoup trop importante. Il faut que ce jeune ait le courage, parce qu'il en faut, de se protéger par l'usage de l'intelligence, et à ce moment-là, tout de suite voir les gens que le bon Dieu a placés à sa porte pour l'aider en premier. Et ces gens, c'est d'abord ses parents. Vous voyez ? Et c'est la première question que je pose à un jeune qui me dit « Monsieur Lavé, je suis amoureux ». Je lui dis, est-ce que vous en avez parlé à ceux que le bon Dieu a placés sur votre chemin pour vous protéger? Et 99 fois sur 100, la réponse est non, j'en ai pas parlé à mes parents. Et si au contraire, un jeune qui se rend compte, qui commence à tomber amoureux de quelqu'un, en parle à ses parents, qu'est-ce qu'il fait? Il se place sous l'intelligence des parents, en quelque sorte, l'intelligence des parents va obliger le cœur du jeune homme qui a tendance à trop se gonfler. À rester dans le réel. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je crois que cet article de saint Thomas d'Aquin est très important. Vous voyez ? Et c'est là où on voit la catastrophe de la révolution actuelle en matière d'éducation, où la révolution fait tout pour que le jeune méprise ceux qui sont placés par Dieu pour le protéger. Et donc la révolution actuelle, c'est très net au niveau de l'éducation nationale en France, n'a qu'une seule idée en tête, pousser les jeunes à ce qu'ils méprisent tout leur passé dont ils viennent. Donc mépris de tout le passé historique de la nation, mépris des parents, mépris de tous ceux qui vous ont donné le jour. Et c'est pour ça qu'il y a une telle catastrophe qui arrive. Parce que quand vous coupez justement le présent du passé, vous ne pouvez plus construire l'avenir. Et donc on se retrouve sur un monde où il n'y a plus aucune espèce d'avenir possible. Plus d'avenir possible. Pourquoi ? Parce qu'on a détruit le passé. Pour ça, je me semble que dans les cours qui doivent être donnés en université, même en école secondaire, il est très très important justement de lier le présent à l'histoire, ancienne du pays. Vous voyez, donc en poussant, c'est ça le drame du monde moderne. On voit très bien en France où les gouvernements n'ont qu'une idée en tête, pousser les jeunes à mépriser leurs origines, mépriser leurs ancêtres, mépriser leurs racines. Et quand un jeune méprise les racines qui tiennent l'arbre, eh bien, évidemment, à ce moment-là, l'arbre tombe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de racines. Vous voyez ? Donc, je crois que c'est quelque chose de très important. Donc, cette phrase de Cicéron, vous l'avez en page 42, en bas de la page. C'est dans un autre traité, Traité sur les vertus. Donc, saint Thomas, c'est une citation que j'ai trouvée dans saint Thomas, en bas de la page. En bas de 4 lignes, 5 lignes avant le bas de la page 42. C'est là où il y a cette citation de Cicéron. Il assigne la prudence aux autres parties, la mémoire du passé, l'intelligence du présent, la prévoyance de l'avenir. Je crois que là, il y a tout un traité d'éducation, littéralement, à préparer pour les enfants. Bon, revenons à page 41, donc l'article 6 de la question 40, donc, qui explique pourquoi les jeunes et les gens ivres gorgent-ils d'espoir. Pourquoi d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi saint Thomas met-il les jeunes et les gens ivres sur le même niveau. C'est que il explique que quelqu'un qui est un adulte, qui est ivre, n'a plus l'usage de sa raison. Et donc à ce moment-là, c'est les sens qui vont prendre commande. Mais c'est la même chose pour les jeunes. Les jeunes sont des gens qui n'ont pas encore l'usage raisonnable, si vous voulez, de leur intelligence, qui ont donc besoin d'être aidés et qui ont besoin de garde-fous. Une voiture, si vous voyez, qui est sur une ligne route qui est extrêmement dangereuse, donc on met des garde-fous sur la route pour que la voiture ne tombe pas dans le ravin. Mais c'est un peu la même chose. Donc, troisième point, de même aussi, ceux qui n'ont pas essayé de revers ni rencontré d'obstacles dans leurs efforts s'imaginent facilement que telle chose leur est possible. C'est ainsi que les jeunes gens, à défaut de l'expérience des obstacles et de leurs propres lacunes, croient facilement pouvoir réussir selon qu'ils sont pleins d'espoir. Et c'est donc justement l'importance de fonder le présent sur l'avenir, fonder le présent sur le passé, pour que le passé donne, si vous voulez, aux jeunes qui étudient le passé, donne les raisons d'espérer, mais en même temps leur apprend la vertu de prudence. Et quand il est-il passé le passé d'un pays, la première chose qu'on apprend, c'est la vertu de prudence. Alors, commencez par voir les erreurs des ancêtres, s'il y en a eu, dans certains domaines, il y en a eu. Par exemple, si vous voulez étudier un peu le rôle du Christ-Roi dans l'histoire du monde aujourd'hui, je pense qu'il faut étudier sérieusement toutes les erreurs qui ont été commises, je dirais, surtout au XIXe siècle, et qui ont fait que toute l'élite catholique a totalement été laminée, justement, par la Révolution. Vous voyez ? Et donc, là, il y a certainement quelque chose à faire, donc bien, bien étudier le passé, pour protéger pour le présent, prévoir l'avenir. C'est pour ça que l'étude des grands auteurs antilibéraux du 19e siècle est tellement importante. Le jeune, là, qui passe sa vie à essayer de monter des vidéos contre moi dans Internet, la dernière vidéo que j'ai entendue, c'est une des grosses bêtises qu'il dit. Il dit, pardon de moi, je suis cité au moins 30 fois dans la vidéo, il dit que je ne cherche qu'une seule chose, c'est à donner une formation intellectuelle aux gens. Et que les gens peuvent très bien aller au ciel, en fait, c'est ce que dit ce jeune qui signe Jean-Baptiste, je ne sais pas son nom, que la formation intellectuelle n'est pas absolument nécessaire. Mais je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit que le plus important, c'est la formation intellectuelle. Justement, je n'arrête pas de dire à qui veut m'entendre que le point le plus important dans la lutte contre la révolution, c'est quoi ? C'est d'abord d'être en état de grâce. L'état de grâce, c'est la formation morale. Mais la formation morale n'empêche pas la formation intellectuelle. Donc il est capital d'étudier, je maintiens ça, capital d'étudier les grands auteurs antilibéraux du 19e, surtout Mgr Ségur, je pense, Mgr Gault, Mgr de la Susse, donc Guéranger, il y a Louis Veuillot, l'abbé Barbier, tous ces grands gars, Mgr Jean-Bien là-dedans. Non, tous les gars, on s'appelle celui de la RIS là. Mgr Join, oui. Voilà, donc ce sont des gens qu'il faut étudier pour préparer justement le futur. Et donc, il faut connaître, savoir comment la révolution a travaillé, comment la franc-maçonnerie a influencé les intelligences, surtout au XIXe siècle, ce qui fait qu'on est arrivé aux catastrophes actuelles. Vous voyez ? Et donc, il faut faire très attention à ça. Alors, deuxième paragraphe donc, de cette page 41, tous les sots et ceux qui ne réfléchissent pas, bon, toutes les audaces se sont remplies d'espoir. Pourquoi ? Encore une fois, parce qu'ils se coupent, ils coupent le présent du passé. D'accord ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand le présent se coupe du passé, on détruit le futur. On détruit les racines qui permettent de préparer le futur. Hein ? Rappelez-vous la formule révolutionnaire du passé faisant table rase. C'est dans l'international communiste, je crois, il y a cette phrase. Du passé faisant table rase. C'est ça, c'est se coupler du passé. Pourquoi se couper du passé ? Pour empêcher tout retour à une morale naturelle. Et c'est pour ça que dans le communisme, on voit très bien avec Karl Marx, par exemple, comment Karl Marx voulait-il obtenir pousser la roue de la révolution ? Il voulait absolument qu'à la base, il y ait des gens qui n'aient plus de passé. Il appelait ça les prolétaires. Le prolétariat, c'est quoi ? Le prolétariat, c'est justement tous ceux qui n'ont aucun espoir, parce qu'il n'y a plus de passé, plus de passé, ils n'ont plus de racines. Prolétaire, c'est quoi ? Prolétaire, c'est qu'il n'y a plus de racines. Et d'où l'importance pour les parents de donner à leurs enfants des racines familiales. L'importance pour les parents de donner à leurs enfants des racines intellectuelles, des racines morales, des racines spirituelles, bien sûr, pour qu'ils puissent préparer le futur. D'accord ? Alors, saint Thomas donc, reprend un petit peu le problème des passions. Voilà ce qu'il dit. Toute passion, autant qu'elle est en elle, par le défaut de rectitude dans le jugement, gêne la faculté de bien délibérer. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut penser droit doit d'abord dominer ses passions. Quelqu'un qui n'est pas capable de dominer ses passions sera quelqu'un qui sera incapable, par la force des choses, de penser correctement. C'est pour ça que la méditation est tellement importante, la vie intérieure est tellement importante. Quand vous mettez devant le Saint-Sacrement pendant une heure ou une demi-heure, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous allez calmer un petit peu, calmer la monture. C'est comme le maître de l'étalon qui va d'abord obliger le cheval à s'arrêter et à se calmer. Petit à petit, une fois que le cheval est calme, à ce moment-là, il peut commencer l'éducation de ce cheval. Et bien, c'est la même chose avec le bon Dieu. Donc, saint Thomas explique bien que toute forme de passion, les passions sont toutes dans l'organisme. Tout homme a une vie intellectuelle, tout homme a un concupiscible et un irascible. Donc, tout homme a en lui les 11 passions de l'âme, en quelque sorte. Mais elles doivent être contrôlées précisément par l'usage de la raison. Donc, ceux, dit-il, qui n'ont pas l'expérience du passé sont plus audacieux, non parce qu'ils manquent de quelque chose, mais par une conséquence accidentelle de ce défaut. Leur manque d'expérience les empêche de connaître leur faiblesse et la présence du danger. Ça, c'est une phrase qui est capitale pour moi. Il faut vraiment que les jeunes se mettent dans la cervelle. Mon manque d'expérience m'empêche de connaître ma faiblesse et la présence du danger. Il y a rien de pire, parce que quelqu'un, justement, qui n'est plus capable de voir les signes du danger qui arrive. C'est comme, si vous voulez, une catastrophe naturelle qui arrive, un certain nombre de signes qui préviennent de l'arrivée de la catastrophe, et puis on refuse de voir ces signes sur le mur, ce qui fait que quand le danger arrive, ben, on n'est pas du tout prêt à lutter contre ce danger. Vous voyez ? Il y a toute une série de sur le plan naturel, d'ailleurs ceci est vrai, toute une série de signaux qu'envoie la nature, par exemple, quand il y a parfois une grande catastrophe qui va arriver. Par exemple, moi, jusqu'à pas, je pense que je ne connais rien là-dedans, mais je pense que c'est vrai que les animaux sentent, par exemple, bien plus que nous, l'arrivée d'un tremblement de terre ou l'arrivée d'une explosion volcanique. J'avais lu quelque part que c'est fait par un scientifique qui, au moment où il tient la route, qui disait, par exemple, un des signes, c'est le fait que les oiseaux perdent complètement le sens de l'altitude. Et les oiseaux migrateurs, à ce moment-là, vont se mettre à voler beaucoup plus bas que prévu, que normalement. Et ça, c'est en général un signe qu'il y a une éruption volcanique qui se prépare. Une série de signes comme ça. Les scientifiques avaient remarqué, par exemple, que dans certaines zones où il y avait des éruptions volcaniques, les animaux le sentaient et quittaient la zone avant même que les premiers signes précurseurs de l'explosion arrivent, et ce qui permettait aux gens qui connaissaient un peu ces choses-là de se rendre compte qu'il y a toujours une explosion volcanique qui arrive. D'accord ? Donc là, c'est une phrase qu'à mon avis, il ne faut pas oublier. Là. Ceux qui n'ont pas l'expérience du danger sont plus audacieux, non parce qu'ils manquent de quelque chose, mais par une conséquence accidentelle de ce défaut. Leur manque d'expérience les empêche de connaître la faiblesse et la présence du danger. Ça peut être, à mon avis, rattaché à la règle numéro 5 de Saint-Ignace. Dans les exercices de Saint-Ignace, cette règle numéro 5 qui est la règle d'or des exercices, à savoir en période de désolation, quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait ? On se calme, on attend. On attend que les choses se calment. En période de grande désolation, qu'est-ce que les Saint-Ignace ? En période de désolation, on attend que les choses d'abord se calment. Donc on ne prend jamais une décision, j'ai traduit ça comme ça pour ceux qui font l'exercice, on ne prend jamais une décision quand on est en état d'énervement. D'abord se calmer, une fois qu'on est calmé, à ce moment-là on peut prendre une décision qui s'impose, mais il ne faut pas voir aller trop vite. D'accord ? Ensuite, dernier paragraphe, troisième paragraphe de cette page 41, « Infliger la vengeance relève de la justice, faire du tort à quelqu'un relève de l'injustice. » Quand on attribue la colère à Dieu, ce n'est pas comme une passion sensible, mais comme une détermination de sa justice, en tant qu'il veut que le péché soit vengé. Donc dans l'Écriture sainte, on voit très bien que les auteurs sacrés attribuent des passions à Dieu. C'est précisément pour nous faire comprendre certaines choses. On va dire que Dieu se met en colère, mais Dieu se met en colère sans aucune passion. Pourquoi ? Parce qu'il est pur esprit. D'accord ? Certes, le pécheur dans son acte ne peut pas nuire effectivement à Dieu, mais pour autant que cela dépend de lui, il agit doublement contre Dieu. D'abord, il l'offense en méprisant ses commandements. Secondement, par le dommage qu'il se cause à lui-même ou à autrui, le pécheur nuit à un homme qui est l'objet de la providence et la protection de Dieu. Donc il est très très important, vous voyez, de savoir, en quelque sorte, dominer ses passions, pour laisser le bon Dieu diriger mon âme. Quelqu'un qui ne sait pas dominer ses passions, qui va suivre ses passions, quelqu'un qui ne saura pas se laisser dominer par notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on n'écoute même plus notre Seigneur. Ce n'est pas pour rien que dans le monde moderne, on maintient les gens dans le bruit tout le temps. Pourquoi ? Pourquoi on maintient les gens dans le bruit tout le temps ? Parce que comme ça, ils sont capables d'écouter le bon Dieu. Donc la première des choses qu'on veut faire, quand on veut commencer à savoir ce qu'il faut faire dans un moment difficile de notre vie, c'est commencer par se calmer, commencer par se taire, commencer par savoir prier pour écouter le bon Dieu. Et alors, bon, après ça, ce place un petit traité que je pratiquement passé sous silence, donc c'est un traité purement philosophique, mais c'est les questions 49 à 54, c'est traité des habitus, des habitudes. Hein. Alors là, bon, c'est une partie, j'ai pas appris beaucoup de choses là-dedans, parce qu'à mon avis, il n'y a pas grand-chose qui soit important pour vous à votre niveau. Les habitudes, saint Thomas va expliquer, donc c'est deux paragraphes avant la fin de la page 41. Les habitudes, c'est une façon de réagir bien ou mal dans les passions, en quelque sorte. Hein. L'habitude, c'est l'arrangement suivant lequel, dit saint Thomas, un être est bien ou mal disposé par rapport à soi ou à l'égard d'autre chose. Donc c'est une disposition par rapport aux passions. Donc, et ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est très important, c'est que ces habitudes sont données justement par l'éducation. C'est l'éducation des parents, surtout pour les garçons du père, qui va justement donner à ces garçons un système d'habitudes qui vont le protéger dans les moments difficiles. Donc donner des règles d'action aux garçons surtout, pour que cela puisse être protégé dans les moments difficiles. C'est pareil au niveau des jeunes filles pour les mamans. Donc, il y a des choses que les papas doivent dire aux garçons, et des choses que les mamans doivent dire aux jeunes filles pour les protéger justement. Et les aider à ne pas se laisser dominer par leurs passions. Parce qu'encore une fois, si les passions ne sont pas contrôlées par la vertu de prudence, à ce moment, il y a des catastrophes qui peuvent arriver immédiatement. Donc je passe là-dessus et on reprend. Donc c'est la page 42, là j'oublie les titres, hein, les titres qu'il faut rajouter là-dedans. Donc trois paragraphes avant la fin de la page 42, donc au milieu de la page, alors on attaque un autre traité qui, à mon avis, beaucoup plus important pour nous, c'est le traité des vertus. Donc page 42. Traité des vertus, c'est traité qui est la primaire et secondaire, donc première partie, la deuxième partie, des questions 55 à 70. Donc là, c'est un traité extrêmement important, parce que justement, les vertus sont à la base de la vie spirituelle. Donc, qu'est-ce que c'est que la définition naturelle d'une vertu, si vous voulez? Saint Thomas, il donne souvent comme définition habitus operativus bonus, c'est justement une habitude qui nous fait choisir spontanément le bien, en quelque sorte, on peut traduire comme ça. Vous voyez ? Et cette habitude qui va nous faire spontanément choisir le bien est donnée par la répétition des actes. C'est là où l'éducation va intervenir. L'éducation des parents est absolument fondamentale pour aider justement les enfants à pratiquer la vertu. Les vertus, certes, sont les vertus, souvent peut-être des vertus infuses données par le bon Dieu. N'oubliez pas que les vertus infuses données par le bon Dieu, elles travaillent à partir de vertus acquises. Et les vertus acquises, sont acquises comment? Les vertus acquises, par définition, une vertu est acquise par la répétition des actes. Faire la même chose à un enfant 10, 20, 30, 40, 50 fois pour qu'il finisse par comprendre comment il doit réagir dans certains cas bien, bien précis. C'est pour ça qu'il faut une certaine force dans l'éducation qu'on donne aux enfants pour que les enfants, par la répétition des actes, finissent par pratiquer de façon spontanée certaines vertus naturelles. Les vertus naturelles vont ouvrir la porte, évidemment, aux vertus surnaturelles. Alors, voyons un petit peu ce que dit saint Thomas donc, sur ce sujet. Donc, on commence par la... En plein milieu de la page 42, juste au milieu. Saint Augustin dit... La vertu est l'ordre de l'amour. Il explique d'ailleurs que cette mise en ordre consiste à jouir de ce dont il faut jouir et à user de ce dont il faut user. Alors ça, c'est très important à comprendre, parce que la révolution fait l'inverse. La révolution va vous pousser à user de ce qu'il faut jouir et à jouir de ce qu'il faut user. Vous voyez ? Donc, il faut un ordre dans les choses. Encore une fois, c'est là où l'intelligence va permettre la bonne organisation des vertus, la bonne organisation plutôt des passions. Et quelqu'un qui a des passions qui sont bien ordonnées, bien régulées par l'intelligence, c'est quelqu'un qui va pouvoir plus facilement acquérir des vertus acquises. Les vertus acquises sont impossibles à acquérir pour quelqu'un qui a des passions qui partent dans tous les sens. Donc si quelqu'un est un véritable révolutionnaire à l'intérieur de lui-même, parce qu'il n'y a pas, de contrôle de ses passions, les vertus acquises sont impossibles. Quand il n'y a pas les vertus acquises, à moins d'un miracle du bon Dieu, il n'y a pas de vertus qui vont être données directement par le bon Dieu. Parce qu'en fait, les vertus infuses. Bon, certes, le bon Dieu veut faire des miracles, c'est sûr, mais il faut une préparation naturelle, j'irai à l'exercice des vertus. C'est pour ça que saint Thomas, c'est une phrase clé de saint Thomas dans sa somme, il dit bien que la grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. Ça veut dire quoi? Que la grâce va utiliser les choses naturelles et élever les choses naturelles d'un niveau naturel à un niveau surnaturel. Voilà donc ce que dit saint Thomas. Donc la vertu, c'est ça, c'est le nom du traité, le traité des vertus, c'est la vertu. C'est par la vertu que l'amour trouve en nous son ordre. Donc la vertu va redonner de l'ordre dans l'âme. Si vous voulez, l'âme est en état de révolution à cause du péché originel. L'intégrité qui était donnée à Adam et Ève a disparu. Et à la place de cette intégrité, il y a, si vous voulez, une pagaille monstre qui est organisée dans le sens que les passions partent en tous les temps, tous les sens. Et bien donc, la vertu acquise d'abord, puis infuse, ces vertus vont remettre de l'ordre dans cette âme qui part dans tous les sens. Donc, la vertu, donc, dit saint Thomas, est la bonne qualité de l'esprit qui assure une vie droite dont nul ne fait mauvais usage, que Dieu opère en nous, sans nous. Donc Dieu va 9 fois sur 10, c'est comme ça que ça se passe. Bon, certes, il peut y avoir des miracles où le bon Dieu pourrait très bien donner des vertus infuses à quelqu'un qui n'a aucune vertu acquise. Cependant, ordinairement, le bon Dieu travaille avec les lois de la nature. Bon, encore une fois, rappelez-vous la phrase de saint Thomas, le bon Dieu, la grâce ne détruit pas la nature. Donc, la nature est en général le terrain d'atterrissage sur lequel la grâce va pouvoir venir se greffer, en quelque sorte. D'accord ? Alors, si justement ce travail d'éducation n'a pas été fait, eh bien, les vertus infuses ont beaucoup plus de mal à être acquises, à venir sur les âmes. Voyez, et on le voit très bien, encore une fois, dans le monde moderne. Si le monde moderne a tout fait pour justement nous couper du passé, c'est pour empêcher justement l'usage de ces vertus acquises. Parce que les vertus acquises, elles viennent du passé. C'est les parents qui transmettent du passé au présent actuel pour donner à leurs enfants ces vertus acquises. Et ce que cherche à faire la Révolution, on voit très bien en France aujourd'hui, c'est à couper les enfants des vertus acquises par les parents en disant, vous devez vous faire vous-même refuser l'influence de vos parents. Rappelez-vous qu'un des buts de la Révolution, c'est d'essayer d'obtenir l'école obligatoire à 3 ans. Pourquoi? C'est pour couper toute influence des parents sur les enfants. D'accord? Alors, il faut donc... Il y a tout un travail d'éducation à donner, le catéchisme, la foi catholique, n'empêche pas l'éducation naturelle, attention. Bon. C'est le drame, justement, moi je le vois très souvent à la prédication des exercices saint-Ignace, où quand on a des gens qui viennent faire les exercices saint-Ignace, qui sont pleins de bonne volonté, mais qui n'ont jamais eu justement cette éducation. Eh bien, ils ont beaucoup plus de mal au début à se mettre à comprendre ce qu'on veut, parce que justement, ce n'est pas leur faute du tout, ils n'ont jamais eu cette éducation. Qu'il en manque quelque chose. Il en manque quelque chose, et ça va. Et ils nous le disent, monsieur l'abbé, il manque quelque chose, j'ai dit, ne vous découragez pas, c'est tout simplement que vous êtes obligé d'acquérir en l'espace de quelques jours, voire même dans certains cas de quelques heures, si ça vient, ça dure 5 jours, hein, c'est pas énorme, en quelques jours, il va falloir qu'ils puissent acquérir ce qu'un enfant normalement acquiert en 20 ans. En quelque sorte, on va essayer de leur donner. Je n'ai pas leur voile crame, je n'aime pas cette expression, mais leur donner en 5 jours tout le catéchisme de l'Église catholique. Alors que dans une famille normale, les enfants vont recevoir ce catéchisme comment? Petit à petit, par osmose, par exemple des parents, c'est comme ça qu'on pense que le catéchisme rentre au moins au début, c'est d'osmose naturelle qui se fait en voyant la façon dont se comportent les parents. Et à ce moment, l'enfant, petit à petit, il grandit physiquement, va grandir aussi intellectuellement, formé par les parents, justement, pour acquérir cette formation intellectuelle qui va lui permettre, après, d'avoir une formation morale très importante. Donc, les enfants, ils apprennent, si vous voulez, la vie intellectuelle, la vie spirituelle. Dès le début, un enfant va apprendre à prier, et les enfants, les familles catholiques, ils apprennent à prier dès l'âge de 3 ans. Ils commencent à prier un petit peu à leur niveau. Bien, les adultes qui arrivent ici n'ont pas tout ça. Tu dois tout obtenir d'un seul coup. Et c'est pas facile, il y en a qui ont du mal. Hein. Alors, donc, la vertu fondamentale dont on va avoir besoin pour justement, dans l'exercice de ces vertus, c'est la vertu de prudence. Et c'est la vertu de prudence, saint Thomas d'Aquin a une expression particulière, il dit c'est le cocher des vertus. Cocher de la diligence, si vous voulez, le conducteur de la diligence qui garde les rênes en main pour pouvoir justement permettre aux chevaux qui tirent la diligence de tirer la diligence en travers tous ensemble. Imaginez que chaque chien, il y a 6 chevaux sur une diligence, pour combien sur une diligence, ou 6 chevaux ou 4 chevaux, et chacun tire dans son sens, la diligence ne va pas avancer. Donc il faut réguler tout ça, c'est là l'usage de la raison. Donc l'usage de la raison va apprendre, va bloquer les passions, ou exercer l'usage des passions de telle façon que ces passions vont travailler ensemble pour un but final, à savoir la fin qui est la nôtre, fin naturelle d'abord, pour obtenir la fin surnaturelle. Hein. Alors, oui, il le dit ici, hein, la prudence est dans la raison, puisqu'elle est la règle, la droite règle de l'action. Recta ratio agibilium, dit saint Thomas. Ça veut dire quoi? La droite règle de l'action. C'est-à-dire, la prudence va obliger l'action à regarder vers le but, vers la fin, parce que c'est la fin qui prime tout. Saint Thomas dit que la fin est première dans l'intention, dernière dans l'exécution à cause de ça. Donc c'est là, si vous voulez, c'est la vertu de prudence qui va obliger la personne à considérer le passé pour préparer le présent et afin de préparer l'avenir. Oui. Donc la prudence consiste à regarder vers l'arrière pour préparer le futur. L'imprudence consiste à se couper du passé pour finalement se couper même du futur. C'est pour ça que les gens qui perdent leur passé, ils n'ont plus rien. Pour le dire, c'est ça. Pour le dire, c'est qu'il n'y a plus de passé et donc il n'y a plus rien à perdre. Puisqu'il n'a plus rien à perdre, il est utilisé par la révolution pour faire du n'importe quoi. Et c'est exactement ce que disait Karl Marx, c'est que la révolution n'est pas possible sans d'abord le prolétariat. Il fallait impérativement avoir du prolétariat, c'est-à-dire des ouvriers qui n'avaient aucun espoir parce qu'il n'y avait plus de passé, plus aucune racine familiale, plus aucune racine nationale, plus aucune racine religieuse. Et donc, n'ayant plus de racine, ben, ils sont à la merci, je dirais, du premier gourou venu qui va les pousser dans un sens très précis, à savoir celui de la destruction de la scie et la branche sur lesquelles ils sont assis. Et, alors, on verra un petit peu ça la prochaine fois, parce que c'est pas des choses très, très, très faciles, mais je crois que c'est important de bien comprendre ça. Et c'est là où le bon Dieu va nous demander d'utiliser évidemment ce bien extraordinaire qu'il nous a donné, à savoir le bien de l'intelligence, à savoir une faculté qu'on a qui nous permet de trouver le vrai et par la volonté de soumettre à ce vrai pour que nous puissions posséder un jour. On finit par une prière. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant, c'est l'heure de notre mort.
Nos
saints
anges gardiens.
Priez.
Saint Pédis, Saint Joseph.
Priez.
Saint Thomas d'Aquin.
Priez.
Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.